enjeu de lancer ces états généraux de la critique de projets d'espace public.
Voilà, donc merci Philippe pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc le propos que je vais tenir se résume dans l'équation que je vous projette maintenant, qui est une équation très simple. Projet plus temps égale critique. Je voudrais témoigner en fait devant vous aujourd'hui du parcours qui m'a conduit, à partir d'une démarche de paysagiste concepteur, à m'engager dans une démarche critique que j'ai progressivement construite jusqu'à en faire un axe essentiel de mon activité. Aujourd'hui, je vis la critique non comme un à côté de l'activité de concepteur, mais comme l'une de ses dimensions pleines et entières. Pourtant, je suis souvent confronté à une sorte de jugement implicite de la part de mes collègues concepteurs lorsque je parle de cette activité. Pour nombre d'entre eux, le critique est une sorte de commentateur ou de chroniqueur motivé par des visées théoriques et intellectuelles sans prise sur la réalité de l'exercice du projet. Selon ce jugement, il y a une distinction radicale entre ceux qui font les projets, qui sont les vrais concepteurs, et ceux qui les commentent, et parfois les critiquent, les théoriciens et les chercheurs, qui finissent toujours par disserter sur un objet qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne le pratiquent pas. Je pense que si cette distinction est parfois fondée, elle n'en est pas moins stérile, car elle oublie une grande vérité au sujet du projet de paysage, c'est qu'il n'est pas un métier, mais un art et une recherche. Le projet de paysage n'est pas une technique ou une ingénierie bien installée dans un cadre opératoire adapté et performant. C'est une aspiration vers un idéal, celui d'une ville-paysage, où les liens entre le monde vivant et le monde social seraient harmonieux et où l'espace public serait conforme aux valeurs qui le sous-tendent, valeurs d'accessibilité, de confort, d'ouverture, de disponibilité, de poésie, de beauté. Tous les concepteurs que je connais critiquent les cadres opératoires dans lesquels ils exercent, car ils les empêchent bien souvent d'atteindre cet idéal, et parfois même simplement de s'en approcher. L'enseignement du projet de paysage a d'ailleurs toujours été nourri et problématisé par cette pensée critique. Il a toujours voulu dire comment faire projet, mais aussi comment déjouer les cadres techniques, réglementaires et processuels qui sont l'ordinaire de cette pratique. Les fondateurs de cet enseignement ont d'ailleurs tous été aussi bien des praticiens que des intellectuels, des dessinateurs que des écrivains, des jardiniers que des chercheurs. Jacques Gard, Bernard Lassus, Michel Corajou, Pierre d'Auvergne, Isabelle Horicoste, Jacques Simon, Gilles Clément, Alexandre Chemetov. Dans mon cas, la démarche critique s'ancre dans la pratique du projet. Je rappelle que j'ai exercé la maîtrise d'œuvre pendant 25 ans de façon intense, avant de poursuivre mon activité de concepteur à partir de 2018 en expérimentant ce que j'appelle effectivement le projet par la recherche, qu'il ne faut pas confondre, Philippe l'a bien rappelé, avec la recherche par le projet, mais c'est un tout autre sujet. Cette expérience m'a confronté aux diverses échelles et programmes auxquels nous sommes tous confrontés. Je m'y suis engagé presque après ma diplomation, en 1993, avec un enthousiasme motivé par les valeurs et les exemples glorieux des aînés que je viens de citer. Mais très vite, j'ai vécu l'écart critique dont ils parlent dans leur enseignement. J'ai découvert l'inculture spatiale des maîtrises d'ouvrage, le règne de la pensée réglementaire et technique, la toute-puissance des ingénieurs. J'ai découvert les caractères limitants des cadres d'appel d'offres, de la mise en concurrence, de l'évaluation de projets sur leur seule performance budgétaire. J'ai été confronté à l'indifférence des destinataires des projets pour le méticuleux travail de nivellement, le soin apporté aux détails d'un sol, d'une plantation, dont la valeur échappe à tous. J'ai vécu la solitude du concepteur lors de négociations souvent tendues, lors de l'élaboration des projets et jusqu'au cours des réunions de chantier. J'ai vu comment les grands groupes du BTP font la loi et impose des prestations inadaptées au mépris du lent ciselage du projet mené en agence. J'ai constaté l'indigence ou l'inadaptation de la gestion des espaces que j'ai aménagés, la désinvolture avec laquelle certains maîtres d'ouvrage les modifient sans rechercher notre avis. J'ai été très heureux et j'ai beaucoup souffert, parfois physiquement, des péripéties de la soixantaine de projets que j'ai conduits pendant ce quart de siècle. Et c'est pour chercher des réponses à l'écart que j'observais entre les valeurs du projet de paysage et la réalité du métier que je me suis mis en recherche. Il me fallait prendre du recul, comprendre si j'étais le seul à rencontrer ces problèmes, m'intéresser donc aux projets des autres et me mettre en quelque sorte à leur école. J'ai visité de très nombreux lieux ayant fait l'objet de projets de paysage. J'ai recherché leurs archives. J'ai interviewé des paysagistes, des architectes, des urbanistes, des maîtres d'ouvrage, des entrepreneurs, des associations, des usagers, des riverains. J'ai très vite choisi de concentrer mes recherches sur des projets anciens parce qu'il est plus facile d'appréhender leur évolution et d'en évaluer les effets. Ma thèse de doctorat en 2004 a porté sur les projets urbains de la couronne HLM de Lille, planifiés pour l'essentiel par Théodore Levoux. J'ai continué en me penchant sur certains projets de Jacques Gare, notamment à Quetigny, puis dans le cadre d'un contrat avec la direction du patrimoine du ministère de la Culture, sur les réalisations paysagères dans les grands ensembles français. J'ai revisité des projets de Simon, de Lassus, d'Audias, de Sgar, à nouveau. Très vite, cette activité a débordé le cadre de la recherche académique et j'ai étendu mes investigations sur des projets de Vexlar, de Coulon, de Devigne, de Corajou, d'Ilex, de Base, de Coloco et de bien d'autres moins célèbres. Le constat global que j'ai tiré de ces enquêtes critiques, c'est que les problèmes que je rencontrais dans mon activité de concepteur ne m'étaient absolument pas propres, même si les publications au sujet de tous ces projets les passent sous silence. Ce qui est publié des projets, ce qui en est dit en conférence par leurs auteurs, c'est en général que ce sont des réussites absolues. Le paysagiste y est souvent campé dans la posture du génie créateur, confronté à des maîtrises d'ouvrage généralement stupides ou incultes, mais qui parvient toujours à faire des merveilles dans l'adversité. La réalité, telle qu'on la découvre en retournant sur les terrains et en discutant sérieusement avec les différents acteurs des projets, est bien plus complexe et laisse une large place aux péripéties que j'ai évoquées et à leurs effets délétères sur le résultat final et surtout sur la manière dont il évolue au-delà de la fin du chantier. Dans de nombreux cas, il m'a même semblé que le résultat observable relevait au moins autant des altérations subies par le projet que des intentions initiales des concepteurs, au point qu'il m'a semblé possible et utile, dans mon dernier livre, de dresser une sorte d'état des lieux de ces altérations dans leur diversité. Ce que montre en fait la démarche critique, c'est que la transformation des projets au contact de la réalité sociale et biologique des lieux investis relève finalement rarement d'une lente défiguration. Au contraire, dans bien des cas, l'altération du projet apparaît comme l'un des vecteurs de sa maturation. Relire le projet à 5 ans, 10 ans, 20 ans ou un demi-siècle de distance, c'est découvrir des espaces d'une grande qualité, mais dont les traits ne correspondent que partiellement à ceux qui avaient été initialement imaginés par leurs concepteurs. Les espaces y perdent sans doute en clarté d'écriture, mais ils y gagnent en vitalité, en souplesse, en humour et en diversité d'usage. Je suis aujourd'hui convaincu que nous défendons mieux le projet de paysage lorsque nous le montrons ainsi, tel que ses usagers quotidiens et ordinaires le vivent, qu'en en publiant que les images de l'après-chantier, avec leurs pelouses impeccables, leurs jeunes plantations toutes fraîches, leurs bancs élégants et leurs calepinages subtils. Le constat critique, pour autant, n'est pas forcément réjouissant, et je comprends que certains collègues dont j'ai étudié les projets m'aient parfois demandé de ne pas publier les critiques que j'en ai réalisées. Montrer la vie du projet sous cet angle ne risque-t-il pas d'être compris comme une manière de dévaloriser le travail des concepteurs ? Montrer la part de responsabilité des maîtrises d'ouvrage dans certaines de ces altérations ne risque-t-il pas de mettre les concepteurs concernés en porte-à-faux avec eux ? Dans un contexte professionnel régi par les lois de la mise en concurrence, la critique ne menace-t-elle pas la notoriété des agences ? Bien sûr, je comprends cela tout en le déplorant, d'autant que le fait que le métier de paysagiste soit soumis à ces cadres concurrentiels n'est questionné que par peu d'entre nous, alors qu'à un niveau de réflexion politique, il faudrait s'interroger sur sa valeur. Mais en réalité, je pense surtout que ces craintes sont contre-productives. Si on veut bien accepter que ce qui nous anime, ce n'est pas de faire de l'aménagement paysager, mais bien de faire de la conception de projets de paysage. Si tel est le cas, si nous sommes tous d'accord pour considérer que le projet de paysage, par définition, ne s'arrête pas à la réception des travaux, pas plus qu'il ne commence avec l'engagement d'une mission de maîtrise d'œuvre, mais qu'il trouve au contraire, qu'il s'ancre au contraire dans l'histoire et la géographie des territoires, alors nous devons admettre que tout ce qui permet de montrer le projet de paysage dans sa grande dimension temporelle va dans le sens de son déploiement et je dirais même de sa continuation, de son perfectionnement. Cela fait des décennies que la Fédération française du paysage demande que les missions des paysagistes, actuellement définies par les cadres de la loi MOP, évoluent pour que le temps long du projet soit enfin pris en compte et que son accompagnement soit effectif et rémunéré. Nous demandons par exemple que l'assistance aux opérations de réception des travaux, AOR, ne soit pas le dernier élément des missions de maîtrise d'œuvre, mais qu'on y ajoute un nouvel élément de mission, qu'on pourrait appeler STP, pour suivi temporel du projet. Cet élément permettrait d'accompagner les évolutions du projet après les travaux, tant dans sa dimension végétale et biologique que sociale. Il permettrait de conseiller les gestionnaires des espaces aménagés dans leur long travail d'accommodement, d'affinement, qui ne doit plus prendre la forme d'une défiguration. Il accroîtrait l'ancrage du travail du paysagiste dans l'écologie du site, qui ne s'apprécie que sur le temps long, et dans sa visée sociale, qui suppose une familiarité forte avec un lieu et ceux qui le vivent. Il donnerait un sens renouvelé aux disciplines enseignées dans nos écoles, trop souvent en marge, voire totalement hors du champ de l'atelier de projet, parce qu'ils n'y sont pas arrimés dans la pratique. Je pense bien sûr aux enseignements en écologie, en sciences du vivant et en sciences sociales. Notre incapacité à nous faire entendre sur ce point, dans un monde de l'aménagement totalement dominé par les cadres opératoires de l'ingénierie, ne doit plus nous arrêter, car il y va de l'intelligibilité sociale et politique de ce que nous tentons tous et toutes de faire. De plus en plus souvent, les projets que nous menons font désormais l'objet d'une vive critique sociale et politique que la génération des fondateurs n'aurait même pas pu imaginer. Les paysagistes sont assimilés à des aménageurs parmi d'autres, dont les dessins magnifiques serviraient de caution verte à l'artificialisation des sols et à la sélection sociale. Qu'elle soit fondée ou non, cette critique perd ses arguments chaque fois que les projets s'ancrent dans le temps long de la vie sociale et biologique d'un lieu. Mais il est vraisemblable que l'urgence climatique intensifiera cette critique. Si au lieu de produire des discours d'autopromotion, nous ne mettons pas en place une saine évaluation de ce que nous faisons, que répondrons-nous à cette critique ? Il faut être d'autant plus vigilant que dans un contexte gouvernemental de réduction du soutien à la culture, et notamment à la création paysagère, la profession risque de perdre, dans les prochaines années, l'accès à ce qui reste son marché principal, la commande publique. En l'absence d'évolution des cadres opératoires du projet de paysage, la critique, cet art de revenir sur les chantiers et de lire dans ces altérations leur continuation, est la seule instance accessible que nous pouvons construire pour donner corps et visibilité au temps long du projet. Elle doit le faire en intelligence avec les projets. Et pour cela, elle doit être menée par des concepteurs capables de comprendre de l'intérieur l'objet dont ils établissent l'évaluation critique. Mais la critique doit aussi être menée sans complaisance. Elle ne peut donc être confiée aux concepteurs des projets eux-mêmes, pour d'évidentes raisons de conflit d'intérêts. Il faut donc former un corps de concepteurs critiques dans les écoles de paysage, qui pourraient être engagés soit dans les laboratoires de recherche, où la critique est pour l'instant à peine représentée, ce que je trouve totalement incompréhensible, soit dans des collectivités qui pourraient les utiliser pour construire un suivi raisonné et non pas amnésique, comme c'est généralement le cas actuellement de la vie des projets. On m'objecte que l'introduction de la critique dans la formation des paysagistes réduirait le temps dédié à l'atelier de projet qui est au cœur de la formation des concepteurs. Mais je suis persuadé pour ma part que la critique, en amenant les étudiants à se pencher sur des projets réalisés, à reconstituer les mécanismes de décision qui les ont produits, à échanger avec les concepteurs et à analyser attentivement les productions graphiques du projet, renforcera au contraire l'apprentissage du projet, là où l'apprentissage en atelier paraît à certains étudiants trop abstrait, car trop éloigné de la réalité. Pour finir, la critique doit inventer des tribunes accessibles à l'ensemble des acteurs du processus de projet, de la maîtrise d'ouvrage à la société civile, en passant bien sûr par les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs. Elle doit être un espace d'inclusion des disciplines sœurs qui nourrissent et fournissent certaines de leurs méthodes à l'enquête critique, comme l'anthropologie, l'archéogéographie ou l'écologie du paysage. Ainsi comprise, la critique n'est pas un à côté du travail de conception, paperassier et bavard, mais l'instance qui vise la poursuite de son action et l'installe à sa juste échelle temporelle, car la critique, au fond, ce n'est rien d'autre que du projet auquel on ajoute du temps. Je vous remercie pour votre attention.
Je veux réagir à la phrase où tu dis qu'il existe un projet après le projet. Oui, c'est comme ça que je le vis aussi, ce métier, à condition qu'il reste une intention. Pas la même, forcément. S'il y a un projet après le projet, c'est qu'il y a l'émergence possible d'une nouvelle intention par le biais d'une nouvelle appropriation. Donc ça fait partie intégrante du projet, il faut l'imaginer aussi. Mais enfin, voilà, je voulais que tu réagisses un peu à ça parce que c'est indépendant.
Alors, je pense que cette proposition telle que tu l'as redéfinie, tout le monde sera forcément d'accord avec elle. Évidemment, on sait bien que le projet qu'on fait n'est pas définitif et que quelqu'un d'autre arrivera derrière. Mais moi, mon propos va un peu plus loin, enfin, même nettement plus loin. Il est assez hardi même. Hein. Je pense qu'il est, il pose un certain nombre de problèmes, qui sont des problèmes qui me passionnent. C'est que moi, je pense que ce que nous faisons en tant que concepteurs, en quelque sorte, nous ne sommes pas... Alors, je vais faire violence à l'un des maîtres mots de la profession. Nous ne sommes pas réellement maîtres de notre projet. C'est-à-dire que, de même que ce que nous faisons, quand nous faisons un projet de paysage, s'articule volontairement ou non avec les projets qui ont été faits avant nous, ça a été illustré par Léa Hommage hier, eh bien, de même, je pense que les projets qui viennent après, et là je prends le terme projet dans un sens très large, hein, qui peut inclure toute forme d'intention plus ou moins anticipée, plus ou moins planifiée sur l'espace, eh bien, ces projets-là continuent le nôtre. C'est-à-dire, ils ne viennent pas s'y ajouter. Pour moi, il ne s'agit pas simplement d'une juxtaposition d'interventions successives, mais plutôt d'une articulation dont finalement aucun des acteurs n'est pleinement conscient et qu'on ne peut appréhender que de façon rétrospective. C'est pour ça qu'on a besoin de cette lecture critique. C'est une intuition qui m'est beaucoup venue de mes travaux sur les grands ensembles, sur le paysage dans les grands ensembles, parce que vous savez que, alors certes, il y a eu un certain nombre de paysagistes qui ont travaillé dans les grands ensembles, mais l'essentiel des grands ensembles français n'ont pas fait l'objet de projets de paysage. Et pourtant, quand on s'y promène, moi en tout cas, j'ai été surpris par la qualité des espaces que je pouvais y observer, et parfois à tel point que j'étais convaincu qu'un paysagiste avait travaillé là. Voilà, j'en ai donné plusieurs exemples hein, dans un certain nombre de publications. Et en fait, à chaque fois, je me rendais compte, en essayant de retrouver les archives de ce merveilleux projet, qu'elle n'existait pas parce que le merveilleux projet n'avait pas eu lieu, ou plus exactement, ce qu'on avait eu, c'était une sédimentation d'actions, ignorantes les unes des autres, mais qui finissaient toujours par s'articuler entre elles d'une façon extrêmement ingénieuse, précise, efficace. Alors, quel est l'élément d'unification de tout ça? Alors, moi, c'est ce que j'appelle dans mes théories un peu fumeuses le métaprojet. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de développer cette idée-là. Alors, Philippe a rappelé la notion d'inflexus, hein, développée par Bernard Lassus. Enfin, je pense qu'il y a tout un courant de la pensée paysagiste qui essaie de nommer cette chose-là. Mais pour moi, c'est extrêmement important de considérer que ce qui vient après, c'est encore le projet. Parce que sinon, d'une certaine manière, quel intérêt est-ce qu'on pourrait porter à l'analyse, à la compréhension de cette chose-là? On pourrait dire, j'ai fait mon boulot, d'autres choses viendront, et puis c'est très bien comme ça. Voilà, c'est effectivement pas tout à fait la posture que je défends.
C'est pas vraiment une question, c'est plus une pour rebondir sur la partie sur l'enseignement de la critique à l'école. Donc je suis étudiant et je suis aussi étudiant en architecture. Et c'est vrai que le travail de référence, de venir étudier et réfléchir à des projets existants, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'atelier de projet à l'école d'architecture que je connais à Marne-la-Vallée, et dont l'absence m'a toujours un petit peu étonné ici, comme si le site en lui-même était la seule référence nécessaire pour pouvoir porter un propos pertinent. Et du coup, oui, ça m'a un peu interpellé cette partie-là sur... comment est-ce qu'on pourrait, en atelier de projet de paysage, regarder, redessiner, réfléchir, se documenter sur des projets existants et voir ce qu'ils peuvent nous apporter dans notre propre réflexion.
Moi, j'avais une question, parce que j'ai du mal à comprendre si finalement le temps ouvre une capacité critique. On pourrait se dire qu'un concepteur qui va revoir son projet 15 ans après est dans une capacité critique presque égale à quelqu'un, enfin égale ou supérieure même, à quelqu'un qui découvre le projet 15 ans après. Et voilà, j'aurais bien aimé que tu peut-être éclaircisses, parce que tu finis ton intervention en disant toi-même tu l'as fait, tu es retourné sur tes projets, voir, ça t'a apporté une capacité critique sur tes propres projets. Et tu termines quand même ton intervention en disant que ça ne doit pas être les concepteurs qui font la critique de leur projet. Donc, voilà. Pour moi, c'est une petite contradiction.
Alors, la première question, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris en fait, ce que vous dites, c'est qu'à Marne-la-Vallée, il y a une très forte considération du lieu, mais ici, non, c'est ça ? Non, je ne suis pas très bien réveillé, je ne suis pas très bien dormi, excusez-moi. Donc c'est l'inverse. C'est ça, c'est l'inverse. Hein ? Ah oui, de la référence de projet, vous voulez dire ? C'est vrai. Moi, j'ai fait 2 années d'architecture avant d'entrer en école de paysage. Et c'est vrai que quand on était en archi, l'une des premières choses qu'on nous demandait de faire en atelier de projet, c'était d'aller à la bibliothèque et de regarder comment avaient fait les autres, quoi. Et le projet se construit beaucoup dans un rapport à ces modèles. Alors qu'en paysage, non, très très peu. On a même souvent du mal à amener les étudiants à aller voir les monographies là, qui sont sur les rayons des bibliothèques, à leur dire « Regardez comment ils ont fait !» Ben, ils ne le font pas. Alors, en général, donc oui, c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Mais là, malheureusement, on n'a pas le temps de le développer. Je suis désolé. Mais j'en parlerai avec vous avec plaisir à part. Mais ça va nous emmener très, très loin. Et... Alors, pour répondre à la question de Sabine, évidemment, c'est une question importante, puisque je ne me suis pas soumis à la règle que j'ai prescrite à la fin là, de mon exposé. Effectivement, ce détour-là par l'autocritique m'a semblé nécessaire pour réussir à éclairer un petit peu ce que j'appelle cette herméneutique du projet de paysage, essayer de construire des outils qui permettrait d'avoir une espèce de rationalité dans la lecture de la manière dont les projets se transforment, s'altèrent. Et le problème auquel j'étais confronté, c'était que pour avoir une lecture un peu complète de ces processus, j'avais besoin d'avoir accès conjointement à ce que le lieu devenait et aux intentions initiales du concepteur. Or, l'accès à ces intentions initiales est toujours extrêmement compliqué. Il passe soit par des entretiens qui sont toujours très intéressants, mais qui sont souvent, puisqu'on parle de projets très anciens, forcément des récits reconstruits. Hein, les paysagistes avec lesquels je discute, et c'est bien normal, reconstruisent rétrospectivement le projet. Hein, ils font un nouveau récit qui n'est pas forcément fidèle à leurs intentions de départ. Et l'autre média qu'on peut utiliser, que j'ai beaucoup utilisé dans ma thèse de doctorat, c'est la production visuelle, c'est les images. Donc moi, j'ai travaillé, essayé de construire des outils d'analyse visuelle de ces images. Mais ça reste des outils, alors, d'abord, qui sont d'un usage assez laborieux, compliqué, mais que j'ai pas totalement abandonné non plus, comme tu le sais, hein, parce qu'on enseigne ça ensemble en séminaire. Donc pour moi, c'était plutôt une espèce de détour, de dérogation momentanée. Mais il n'en demeure pas moins que dans mon activité de critique, je ne me porte jamais sur des projets que j'ai faits ou dans lesquels j'ai été impliqué. J'ai été parfois tenté de le faire, mais je me suis immédiatement arrêté parce que je pense que c'est totalement impossible. Voilà. Donc c'est, il faut accepter un régime d'exception sur cette chose-là pour la rendre admissible.
Les états généraux de la critique du projet d'espace public, un podcast réalisé par Charlotte Mutel de l'association La Vitrine Itinérante.